VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Lydia Noirchot, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Retour du FMI, le Fonds monétaire international au Zimbabwe, après la chute du président Robert Mugabe. L'institution financière internationale promet d'envoyer sur place début décembre une équipe afin d'apprécier la situation. Des précisions avec Eddy Sango.
Il s'agira, selon le porte-parole du FMI, d'une visite ordinaire. Elle intervient une semaine après la chute de Robert Mugabe, qui a laissé le pays dans une crise économique profonde. Le FMI est prêt à soutenir les nouvelles autorités zimbabwéennes dans leurs efforts pour s'attaquer au déficit budgétaire, mettre en place les réformes structurelles dont le pays a besoin, a déclaré Jerry Rice. Les porte-parole du FMI reconnaît que les Zimbabwe étaient confrontés à des défis dans un grand nombre de domaines pour restaurer la croissance et qu'il aura besoin d'un substantiel effort international pour sortir de son marasme économique. Emmerson Mnangagwa, le nouveau chef de l'État, a déclaré lors de son investiture faire de la relance économique son cheval de bataille. Il veut créer des emplois et favoriser les retours des investissements étrangers dans son pays qui a été longtemps cible des sanctions. Il a donné 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays.
Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes sécessionnistes, a déclaré le président camerounais Paul Biya jeudi soir dans des propos diffusés à la radio nationale après la mort de 6 militaires tués depuis mardi en zone anglophone par des séparatistes présumés. À son retour du 5e sommet Europe-Afrique à Abidjan, le président Biya a souligné que son gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. La sécurité dans la région anglophone du Cameroun, en proie à une grave crise sociopolitique depuis un an, s'est considérablement dégradée. En quelques semaines, 10 membres des forces de sécurité camerounaises y ont été tués en moins de mois. Retour aux manifestations dispersées jeudi en RDC, les forces de l'ordre ont usé de la violence pour empêcher les protestataires de s'exprimer. Des leaders de l'opposition et plusieurs autres manifestants ont été brièvement interpellés. Le compte-rendu d'un des dirigeants de l'opposition, Martin Fayoulou, au micro d'Eddy Isango.
Les militaires et les policiers sont venus s'interposer et ont commencé à nous tabasser, à nous donner des coups et à arrêter les membres qui étaient avec nous. Et finalement, c'était tellement chaud, on nous a amenés dans un quartier général de la police qui se trouve effectivement au lieu où nous devions commencer la marche, c'est-à-dire à l'échangeur de l'unité. Ils nous ont tabassés, copieusement tabassés, torturés même, et ils ont des montres, des appareils, de l'argent et tous nos membres qui étaient là. Nous sommes restés là près de 3 heures. Le secrétaire général de l'UDPS a été mis au cachot. J'ai trouvé un contre-député de Jean-Bertrand Iwanga qui lui était appréhendé avant nous. Suite aux pressions, ils ont compris qu'ils devaient nous relâcher.
Votre manifestation n'a pas eu l'impact que vous attendiez. Allez-vous récidiver?
Mais oui, mais la marche a eu un impact parce que dans toute la République démocratique du Congo, des gens dans les villes, dans les grandes villes, des gens ont manifesté et ils ont fait exactement la même chose qu'à Kinshasa, arrêter les gens, empêcher, mais la manifestation, donc la marche, s'est transformée en marche plus ville morte.
Vous protestez contre un projet de loi déposé au Parlement. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet de loi?
D'abord, l'affaire de Pepperdine Gate, c'est-à-dire cette collusion patente entre le parti de M. Kabila et la Commission électorale nationale indépendante. Il y a des réunions qui se sont organisées entre ces partis et le président de la CENI pour trouver les moyens de faire passer cette loi en discussion à l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs illégitime. Cette loi qui contient des éléments discutés en famille politique, des éléments que le PPRD a donné à la CENI et que dans l'élément sonore que Jeune Afrique a relevé par rapport à la réunion qu'ils ont eue, par exemple, monsieur le président de l'Assemblée nationale qui dit que le président de la CENI les a aidés en faisant accepter à tout le monde la machine à voter et que cette machine à voter avait pour seul objectif que le PPRD puisse être majoritaire au Parlement sans les autres. Sous d'autres cieux, M. Minakou, président de l'Assemblée nationale, M. Nanga, président de la CENI, devait déjà démissionner.
Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, est cédé, joint à Kinshasa.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique, les États-Unis et le Niger sont parvenus à un accord permettant à Washington d'utiliser des drones armés contre les groupes de terroristes djihadistes en territoire nigérien. Jusqu'ici, les États-Unis n'ont effectué des raids aériens en Afrique que contre des djihadistes opérant en Libye et en Somalie. Selon des officiels américains, les drones basés au Niger élargiront les capacités militaires contre les extrémistes d'Afrique de l'Ouest, à savoir les combattants de Boko Haram, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et du groupe État islamique. Mauritanie, Amnesty International exhorte les autorités mauritaniennes à libérer immédiatement et sans condition 5 défenseurs des droits de l'homme, membres de collectifs de veuves et d'orphelins. Ces activistes ont été arrêtés mardi dernier lors de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance et restent en détention, Jacques Aristide.
D'après Amnesty, les 5 militants ont brandi des banderoles et distribué des tracts appelant à l'ouverture d'enquêtes et de poursuites pénales à l'encontre de personnes qu'ils accusent d'être responsables des exécutions extrajudiciaires commises entre 1989 et 1991. C'était lors du passage du cortège du président Mohamed Ould Abdelaziz à Kaïdi dans le sud de la Mauritanie où était célébrée cette année la fête nationale. En vertu d'une loi d'amnistie de 1993, les auteurs de ces exécutions n'ont pas été jugés. Accusés de tentative de coup d'État sous le président Mahawiya Ould Taïa, 28 militaires négro-africains ont été pendus le 28 novembre 1990, jour du 30e anniversaire de l'indépendance, lors d'une période de forte violence communautaire. En 2015, le président Aziz avait indiqué que des réparations matérielles avaient été accordées. Il avait accusé les organisations de défense des droits de l'homme de semer la haine et la division entre les communautés arabes et négro africaine de Mauritanie, mais pour Amnesty, c'est la réparation morale que les militants continuent d'exiger.
Bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au Togo, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est dit inquiet de l'instabilité politique qui règne dans ce pays, alors que des milliers de manifestants sont encore descendus dans les rues de Lomé, la capitale, jeudi, pour réclamer la démission du président togolais Faure Gnassingbé. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le président Buhari a indiqué que l'instabilité au Togo aura des conséquences régionales et nous devrons payer le prix du développement lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara en marge du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. Le président nigérien a ajouté qu'il doit y avoir une solution à la crise. Les amis de l'opposition et des autorités doivent les encourager à prendre des mesures conjointes. Ils doivent regagner une confiance mutuelle. À Lomé, les marches ont eu lieu hier dans le calme pour la seconde journée consécutive après 3 mois de contestation populaire pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé. Resté silencieux pendant des mois, M. Gnassingbé a fait savoir la semaine dernière qu'un dialogue avec l'opposition devrait avoir lieu d'ici à quelques semaines.
Actualité aux États-Unis maintenant, le Congrès américain devrait voter une loi de financement temporaire pour éviter une paralysie de l'administration fédérale. C'est Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants, qui l'a annoncé, Abdourahman Dia.
Paul Ryan, lors d'une conférence de presse hier au Capitole, a assuré qu'une résolution de court terme est nécessaire pour garder l'État ouvert pendant que les négociations continuent. Le gouvernement fédéral ne peut légalement fonctionner que si le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, vote son budget. Cette loi de financement temporaire, nommée « Continuing Resolution » dans le jargon parlementaire, doit être adoptée par la Chambre et le Sénat avant le 8 décembre prochain. La majorité républicaine et l'opposition démocrate sont engagées dans un bras de fer. Les démocrates minoritaires ont néanmoins un pouvoir d'obstruction au Sénat. L'un des points de discorde porte sur les illégaux arrivés jeunes avec leurs parents aux États-Unis, surnommés les « Dreamers ». Donald Trump a abrogé un programme de Barack Obama leur donnant des papiers temporaires et sans vote du Congrès, ils sont menacés d'expulsion à partir de mars prochain.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.